I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec toujours l'excellent Arnaud Bordelais, journaliste Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Raffut, vous savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous serons en compagnie de Philippe Spanghero, membre du collectif Oval Ensemble, un groupe d'opposition à la gouvernance actuelle de la FFR, un groupe dirigé par Florian Grill. Évidemment, il sera question des récentes affaires ayant touché la fédération, mais pas seulement. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain Raffut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain Raffut, saison 6, épisode 25, c'est parti. Raph, cette semaine, on va parler un petit peu de l'équipe de France dans la première partie de Poulain Raffut, une équipe de France qui a subi sa première défaite. C'était samedi à Dublin face à l'Irlande. Évidemment, tu ne vas pas parler de jeu, mais de management, c'est bien ça ?
Oui Arnaud, tu sais, comme Icare, plus tu t'approches du soleil et plus la chute est dure. Cette équipe de France l'a côtoyée pendant 3 ans, le soleil, avec une montée en puissance et à la clé, ce record de 14 victoires. Et puis, comme un retour à la réalité, cru, simple, basique, l'Irlande, meilleure nation du monde, meilleure que nous, avec une intensité folle et un pragmatisme à la limite de la perfection, tout comme le Leinster d'ailleurs. L'Irlande vient de nous mettre une claque et vient de nous forcer à une mise à jour. En tant que supporter, on s'est vu beau, magnifique, nous étions confiants et puis les salles irlandaises nous ont fait douter et ont permis de voir certaines lacunes. En gros, quand ça gagne, tout va bien. Quand ça perd, il faut gérer les déceptions, il faut gérer les frustrations. À la fin du match, certains joueurs ont dit que la stratégie n'était pas bonne. Galtier a sous-entendu que le plan de jeu n'avait pas été respecté. Comment va-t-il accueillir ces commentaires et les critiques ? A-t-il une responsabilité dans la défaite ? Comment va-t-il gérer tout ça ? On est en droit de se poser ces questions, mais au-delà de toutes ces interrogations, ça n'est pas le moment de se fissurer. L'union sacrée est importante à quelques mois du Mondial, et ça n'est qu'une défaite qui, je l'espère, ne fera pas ressortir les mauvais démons du doute, de la vindicte, à chercher un coupable. Alors, possession, dépossession, repossession, 56 points dans la musette encaissés en 2 matchs. Est-ce que Dupont a trop joué ? Essai ou pas essai, spéculation, flagellation. Une chose est sûre, nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. L'objectif final est en ligne de mire. Et faisons confiance au staff, à cette équipe et à ses joueurs pour continuer à grandir ensemble, car c'est dans l'échec que l'on grandit en tant qu'équipe et que l'on mûrit aussi individuellement. En tant que supporters, ne nous voyons pas trop beau, vite trop beau. Ce retour à la réalité nous permet à nous aussi de nous questionner sur nos attentes et de garder notre passion intacte pour cette équipe, certes touchée, mais sûrement pas coulée. Restons confiants et rendez-vous contre l'Écosse sans excès de fierté qui peut nous faire souvent défaut à nous, Français.
Allez, deuxième partie dans Poulain Raffut avec nous aujourd'hui, Philippe Spanghero. Le nom vous dit sûrement quelque chose. Il fait partie d'une famille qui a marqué l'histoire de ce sport. Philippe s'est dernièrement engagé avec le collectif Oval Ensemble, le groupe d'opposition à l'actuelle gouvernance de la FFR. Et c'est à ce titre, Raph, que tu souhaitais le recevoir, c'est bien ça ?
Oui, ben tu l'as dit, la famille Spanghero dans le rugby, ça parle à tout le monde, évidemment. Et Philippe, même s'il n'a pas été le plus célèbre de la famille par ses performances rugbystiques, a décidé il y a peu de s'engager dans le combat, tu viens de le dire, le combat politique est plus politique que sportif. Et moi, j'avais envie d'en savoir un peu plus. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, t'imagines bien, Philippe. Mais dans Poulain Raffut, pour commencer, une petite question qui, je crois, a le don de te faire chier, de te saouler, de t'agacer. Oui, tu es le fils de qui ?
Alors, je suis le fils de Guy Lavandernier, mais en effet, alors ça m'agace pas parce qu'à la fois, ça fait partie de l'originalité de la famille. C'est une famille nombreuse, il y a 6 frères, ils ont tous joué au rugby en première division, 4 en même temps au Racing Club Narbonnais, donc ça contribue à l'histoire. Mais c'est vrai qu'en fait, la difficulté de tout ça avec cette question, c'est que c'est dur d'exister en étant soi-même, quoi. Et donc, on est souvent présenté comme le fils d'eux, le neveu d'eux. Et donc, en effet, t'es le fils duquel? C'est une question que j'ai entendue à peu près 5000 fois.
Oui, c'est ce qu'on avait vu, notamment sur Twitter. C'est Arnaud qui avait retrouvé ça. C'est la question qu'on te posait le plus souvent en même temps. Ouais, ça permet de savoir un peu, pour ceux qui nous écoutent, de savoir d'où tu viens. Parce que moi, j'imagine que ce nom Spanghero, c'est avant tout une fierté à porter avant de se lancer peut-être dans le business, où là, justement, il faut ramer, cravacher. Ça va être justement le portrait que je vais faire de toi juste après. Mais oui, c'est quand même une fierté, ce nom.
Oui, bien sûr, c'est une fierté. Je l'ai toujours vécu à la fois comme ça et à la fois comme un poids quand j'ai essayé de percer sportivement, parce que comme beaucoup d'entre nous et toi, bien sûr, on a suivi à peu près le même cursus, les sports-études, les sélections jeunes, jusqu'en espoir au Stade Toulousain. Et là, il y avait à la fois de la fierté, à la fois beaucoup de pression et d'injustice, parce que finalement, quand je faisais plutôt un bon match, on disait que c'était normal parce que je m'appelais Spanghero et qu'il y avait un certain standard. Au-delà de mes oncles et de mon père, il y a eu mon frère aussi, Nicolas, parce que j'ai beaucoup d'écart avec mon frère. On a plus de 9 ans d'écart, qui avait déjà fait son trou, capitaine des équipes de France jeunes, champion du monde universitaire, pro Stade Toulousain. Donc voilà, c'était assez lourd à porter. Et pour tout te dire, je l'ai pas vécu avec insouciance, quoi. Je me suis mis toujours une pression excessive et j'ai pas vécu cette période-là de façon apaisée.
Bon, messieurs, avant de poursuivre vos échanges, je vous propose, Raph, justement, hein, que tu nous dresses le portrait de Philippe, et j'insiste sur le prénom, mais Spanghero façon Poulain Rafut. C'est quand même particulier, Philippe, je te préviens, c'est maintenant.
Bah, il connaît un peu Philippe quand même. Oui, il y a beaucoup de fils d'eux dans le milieu du rugby, essentiellement sur le terrain, ce fameux pré où on ne peut pas tricher, où on ne peut pas être pistonné. Si tu es nul, tu peux avoir le plus beau nom et le plus beau prénom du monde. Dans la famille rugby, tu franchiras pas le cap. Et c'est comme ça, source de motivation pour certains, baignés dans les valeurs de l'Ovalie depuis tout petit, pression pour d'autres qui préfèrent prendre un tout autre chemin. Les parcours de ces fils d'eux sont souvent mis à rude épreuve dans un monde où les bouches de vieilles simplifient le parcours à grands coups de... Mais c'est grâce à ton père, bien entendu. Eh oui, il en faut du courage pour se démarquer, exister hors de la lumière du Saint-Père et de son nom illustre. Par exemple, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, vous allez tout de suite voir un pachyderme rose en fermant les yeux. Si je vous dis Spanghero, et même si vous ne les avez jamais vus jouer, vous pensez bien entendu tout de suite au terroir, aux mains de géants, aux cinq nations, à la fratrie et l'illustre passé rugby des années 60, 70 et 80. Et derrière, c'est Walter, c'est Claude, c'est Laurent, c'est Jean-Marie, c'est Gilbert et c'est Guy. C'est comme Zidane, ce sont des noms qui deviennent légendes. Philippe, fils de Guy, neveu donc de Walter et de Claude, a dû se sortir les griffes de ce nom illustre pour exister et se donner une vraie légitimité, une vraie confiance dans ce monde où on montre vite du doigt les fils à papa, les soi-disant pistonnages et autres raccourcis à la con. Ce type fait partie de ma génération et a baigné dans ce microcosme rugbystique depuis tout petit. Ce sport coule dans ses veines, c'est dans ses gènes, et il l'a vu évoluer ces dernières années dans un sens qu'il comprend certes, mais qu'il ne peut pas cautionner. Il en faut du courage pour affronter celles et ceux qui voudraient l'enfermer dans une caricature. Alors, fils de héros d'un ancien temps, Philippe a toujours voulu exister par lui-même. Il crée son agence de conseil en relations publiques en 2008, en collaboration notamment avec Vincent Clerc et Grégory Lambollet. Il dirige le fonds de dotation de Team One, cette fameuse justement agence de conseil en relations publiques créée en 2019. Conseiller pour le groupe Fiducial, il est depuis 3 ans consultant pour Sud Radio. Personnalité forte qui s'affirme dans un monde où l'ancien temps s'accroche aux branches comme un vieux chewing-gum sous une table d'écolier, il veut être acteur du changement que notre monde appelle de ses voeux. On va parler rugby, certes, Oval Ensemble aussi, et philosophie, valeur, engagement. Et on va tenter de comprendre et de prendre un peu de hauteur sur ce sport qui doit effectuer une mutation profonde à 8 mois de la Coupe du Monde. Alors Philippe, tu as décidé de rejoindre le groupe Oval Ensemble. Arnaud l'a dit en préambule, il y a quelques semaines maintenant. Est-ce que tu peux nous dire les raisons qui t'ont poussé à prendre cette décision?
Alors d'abord, j'ai franchi le pas de l'officialisation de la communication il y a peu de temps, on y reviendra. Mais en réalité, j'ai découvert Oval Ensemble et son action il y a un peu plus d'un an et demi par l'intermédiaire de Claude Elias, que j'avais connu au Stade Toulousain quand je m'occupais de Guy Novès, dont il est très proche, et de Sylvain Dereux, que j'avais croisé à l'USAP, avec qui j'ai collaboré aussi. Et quand ils sont venus me parler de ce projet d'Oval Ensemble et de leur façon de voir le rugby avec Florian Grill en chef de file, j'ai adhéré à cette vision et à ces valeurs qu'ils essayaient de défendre. Et puis j'ai simplement adhéré à leur association Oval Ensemble en disant que Je voulais juste leur montrer par cette adhésion mon soutien et me rendre disponible s'ils avaient besoin de réfléchir à ce que devait être le rugby demain et particulièrement le renforcement du lien entre rugby pro et rugby amateur. Ce qu'on y reviendra, c'est une des particularités et des limites pour moi de notre modèle en France. On s'est quitté comme ça. Et puis ensuite, j'ai pu échanger plus longuement avec Florian Grid justement sur cette nécessité de rapprocher les visions rugby pro, rugby amateur. Moi, je connais plutôt bien le rugby pro puisque je collabore avec de nombreux clubs depuis que j'ai créé l'agence, le Castres Olympique, le Racing, la section paloise et puis le Stade Toulousain que je connais de l'intérieur puisque tu l'as dit, je travaille pour Fiducial et au-delà de Sud Radio, je siège au conseil de surveillance du Stade Toulousain pour le groupe Fiducial depuis 3 ans aussi. Donc j'ai une certaine vision du rugby pro et de comment le rugby pro et le rugby amateur peuvent se rejoindre. Et donc j'ai commencé à travailler avec eux sur ces réflexions-là, mais sans aucune volonté de militantisme. Et puis, quand le mois de décembre est arrivé, le verdict du procès Laporte, et puis tout ce qui s'est enchaîné d'un point de vue médiatique, même m'a poussé à sortir du bois. Et mon vrai frein, c'était la légitimité, comme tu le dis tout à l'heure, que les gens puissent dire, mais qui il est, qu'est-ce qu'il vient faire là, à quel titre il prend la parole. Et puis finalement, je me suis retourné un peu sur ce qu'on avait fait dans le rugby depuis une quinzaine d'années. On a accompagné beaucoup de clubs. On a une vraie expertise de ce qu'est le rugby professionnel, du rôle social que doit jouer le rugby aussi, puisque grâce à notre fonds de dotation, on accompagne beaucoup d'actions en lien avec le rugby, Terre en Mêlée, les fondations de Tendai Tawarira et de Siya Kolisi en Afrique du Sud. On se rend compte d'à quel point le rugby a un rôle à jouer d'un point de vue social et sociétal. Et je me suis dit, voilà, je crois que cette expérience-là et ce recul-là me permet aujourd'hui d'avoir une légitimité pour jouer mon rôle dans cette organisation. Voilà.
Alors justement, Philippe, c'est vrai que ton nom est apparu un peu plus fréquemment autour du groupe Oval Ensemble, notamment sur cette période de décembre-janvier. Il y a eu pas mal de remue-ménage hein, à la FFR. D'abord, il y a eu le retrait de Bernard Laporte suite à sa condamnation, le référendum où les clubs ont dit non à Patrick Buisson pour le poste de président délégué. Et enfin, la nomination d'Alexandre Martinez à la présidence par intérim. Tu fais partie de ceux qui avaient appelé hein, à la démission de Bernard Laporte. Tu fais aussi partie de ceux qui ont appelé à voter contre Patrick Buisson pour le poste de président délégué. Finalement, la gouvernance actuelle, excepté Bernard Laporte, qui a finalement démissionné, est toujours la même. Qu'est-ce que finalement tu as pensé de toute cette période qui n'a pas forcément donné une très très belle image du rugby français?
Ben, elle m'a beaucoup dérangé et on reviendra tout à l'heure sur la question de fond qui est un peu plus philosophique. D'abord, moi, j'ai eu un problème au départ parce que, à titre personnel, j'ai beaucoup croisé Bernard Laporte, c'est un tout petit monde. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection et de l'amitié. Et en fait, ce n'est pas un combat contre Bernard Laporte. C'était un combat au départ contre le représentant d'une institution qui était en souffrance par les affaires. Et ça, c'est quand même important de faire cette distinction-là. Je crois que le rugby, plus que les autres sports, s'est construit sur un modèle économique autour de valeurs qui sont pas négociables. L'affaire Altrad, elle a causé du tort puisque ça a été un feuilleton pendant des années. Heureusement, sportivement, l'équipe de France est revenue au premier plan et donc il y a cet engouement autour de la dimension sportive. Mais les affaires, elles font mal d'un point de vue de l'image et d'un point de vue économique. Et je pense malheureusement qu'on en ressentira les effets post-Coupe du Monde. Donc moi, je me battais pour qu'il y ait en effet une démission de Bernard Laporte, puisque même s'il y a la présomption d'innocence, même s'il a fait appel de la condamnation, c'était une condamnation très lourde. Et je voyais aussi le regard à l'international sur tout ça, parce que c'est une année très particulière, hein. Il n'y aurait pas la Coupe du Monde en France cette année, les choses, je suis sûr, se seraient passées très différemment et beaucoup plus simplement. Mais cette Coupe du Monde, elle cristallise beaucoup de choses. On a un devoir d'exemplarité, non seulement en France, mais aux yeux du monde. Donc ça a été un premier pas. Bernard Laporte s'est d'abord mis en retrait et a proposé Patrick Buisson, qui était certainement le candidat le plus consensuel. Et moi, ce qui m'a posé vraiment problème sur l'épisode de la proposition du président délégué, c'est en effet cette communication qui a été faite par la gouvernance autour de cette consultation qui était présentée comme un référendum, qui était de dire, voilà, on va vous présenter quelqu'un, vous avez le choix de dire non, et si vous dites non, on en tirera les conclusions. Patrick Buisson lui-même avait dit quelques jours avant le référendum dans un entretien que si jamais le non l'emportait, on passerait à des élections générales. Et ça, les clubs l'ont entendu. Et ils se sont mobilisés très massivement. On ne pensait jamais qu'il y ait autant de pourcentage de votants, plus de 90% des voix. Et moi, ce qui me dérange, c'est que finalement, on a mobilisé les clubs sur un mensonge en leur disant qu'on allait vraiment tenir compte de leur avis et que si le non l'emportait, la gouvernance considérerait que c'était un rejet de la gouvernance et qu'on aurait des élections générales. Et puis ensuite, ils ont trouvé dans les statuts une façon de revenir sur leurs décisions. Et ça me pose un problème parce que ça marque une cassure dans la confiance entre la fédération et son rugby amateur. Et je crois que quand cette relation-là n'est pas solide, c'est dangereux. Voilà.
Et tu le sais, on en avait parlé il y a quelques temps, les textes donnent raison à la gouvernance actuelle, mais il y a l'éthique. Votre demande, elle repose aujourd'hui sur l'éthique, finalement. Tu parlais de philosophie, de valeur. Aujourd'hui, les textes donnent raison à la gouvernance de la FFR, mais derrière, c'est l'éthique. Et tout ce que ça transpire de trucs un peu nauséabondes, justement, derrière, de garder, de s'accrocher, je le disais dans l'introduction, de s'accrocher aux branches, en fait. C'est ça qui dérange, en fait, un petit peu aussi.
C'est une question, honnêtement, qui mérite d'être posée. On est dans une société, je crois, qui a besoin de règles. Donc, on ne peut pas dire qu'on doit faire fi des règles et des statuts. Mais est-ce que le sport doit être traité de façon équitable et à égalité avec le reste des sujets de société? Je ne suis pas sûr. Je pense que le sport, plus qu'aucun autre domaine, a besoin d'éthique et de valeurs qui ne sont pas négociables. Notre modèle dans le sport est construit là-dessus. On voit toutes les affaires autour des fédérations et on voit bien quelque part le problème général autour de ces statuts-là. À la fois, c'est important que les fédérations soient libres et autonomes et qu'il ne puisse pas y avoir d'ingérence politique tous les quatre matins, mais à la fois, on voit bien aujourd'hui la limite des statuts autour des affaires à la 3F, à la Fédé de foot, autour des affaires dans le rugby et d'autres fédérations. Et là, je crois qu'il y a une vraie question philosophique à se poser. On est à la croisée des chemins. Il y a quand même un mouvement de fond d'une nouvelle génération avec ses lanceurs d'alerte, avec des croyances très fortes sur les valeurs, sur le rôle de l'être humain dans le monde dans lequel on vit. Et là, on n'est plus dans les règles. On est clairement dans une dimension philosophique et le sport ne doit pas échapper à cette question et doit même, pour moi, être montrer l'exemple et être le premier à faire sa mutation. Parce qu'encore une fois, c'est une nécessité d'abord pour continuer à évoluer, à attirer des gamins et deuxièmement pour continuer à avoir une économie. Parce que ce qui nous distingue de d'autres secteurs d'activité dans lesquels les sponsors viennent mettre de l'argent et associer leur image, c'est les valeurs du sport. Et on parle bien de valeurs, on ne parle pas de texte. Et donc, dans le sport, il y a cette association très forte qui fait qu'il y a en effet cette question philosophique qui se pose, rajoutée dans le cas précis qui nous concerne dans le rugby, au fait du petit mensonge de la gouvernance au moment où on a sollicité les clubs. Voilà, donc c'est en effet pas statutaire, mais on a présenté les choses au club d'une façon qui n'était pas la bonne. Et ça pose un problème. Et pour terminer, il y a un problème aussi d'exemplarité qui va poser question dans les mois qui arrivent si les choses ne bougent pas. Parce que j'ai rien à titre personnel contre Patrick Buisson. Mais quand on a quelqu'un qui décide de s'engager, d'aller défendre une croyance et qui est rejeté, il doit en tirer les conclusions. ça ne peut pas être que gagnant comme pari. Y a un risque à prendre quand on se présente face au vote des clubs et à la démocratie. Et aujourd'hui, il se passe quoi ? Patrick Buisson n'a pas été élu. Depuis les résultats du référendum, il n'a plus ouvert la bouche. Il ne s'est même pas exprimé. Il n'a même pas essayé de parler au club en leur expliquant qu'il comprenait quelque part ce vote. Il s'est mis en retrait et il reste à la place qu'il avait avant. Et rien n'a changé.
Est-ce que Philippe, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que tu as été surprise ? Tu soulignais tout à l'heure la forte mobilisation quand même, hein, des clubs. Plus de 90% des clubs se sont mobilisés pour ce référendum. Et peut-être qu'au regard de toutes ces affaires, au regard de la lourdeur de la condamnation du président de la fédération, on pouvait s'attendre à un véritable raz-de-marée du non. Or, le non l'emporte avec 51,06%. De façon un peu caricaturale, on peut imaginer que le rugby est devenu un peu binaire. Il y a effectivement ceux qui ne voulaient pas de Patrick Buisson, et puis il y a ceux qui étaient prêts à continuer avec lui. Et grosso modo, on est quasiment à 50-50. Est-ce que tu as été surpris par ce résultat ?
Alors honnêtement, oui. Mais avec le recul, je le comprends. Pour une raison simple, pour avoir parlé avec beaucoup, beaucoup de clubs, c'est l'argument de préserver la Coupe du Monde. Et en fait, finalement, ça a été un des arguments majeurs de la gouvernance actuelle et qui a été vraiment imprimé dans l'esprit des clubs qui ont dit non, mais on n'est plus à quelques mois près, on a la chance d'avoir la Coupe du Monde chez nous. Si les choses changent, on va mettre en danger la Coupe du Monde. Et je crois finalement qu'il y a beaucoup de clubs qui ont occulté la question philosophique de fond en pensant à la Coupe du Monde. Et ça fait pour moi relativiser quelque part les résultats de ce vote. Et le dernier sujet, qui là aussi mérite une petite interrogation philosophique, c'est ce qu'on appelle l'appareil, c'est-à-dire l'appareil fédéral, qui a manqué un peu d'objectivité, puisque des présidents de ligue, de comités départementaux ont fait des courriers en appelant les clubs à voter pour Patrick Buisson. Ça, je trouve que ce n'était pas leur rôle à ce moment-là, puisque orienter la voix des clubs, ce n'est pas le rôle d'un comité ou d'une ligue. Mais bon, malgré tout ça, même si c'est d'une courte tête, la démocratie s'est exprimée, elle aurait dû être plus prise en compte. En tous les cas, ce que je retiens, c'est finalement ce qui m'a rassuré, c'est à quel point finalement on est dans un sport sain, puisque quand j'ai vu des petits présidents de club à ce point vouloir préserver la Coupe du Monde, essayer de réfléchir à l'intérêt supérieur en se disant non, mais le sujet, c'est pas Bernard Laporte ou Oval Ensemble, il y a une question de fond, il y a la Coupe du Monde. Je trouve que tous les clubs se sont vraiment investis dans la réflexion, n'ont pas du tout pris ce vote à la légère et ont vraiment réfléchi dans l'intérêt supérieur du rugby. Et ça, finalement, ça me rassure sur ce qui fait notre ADN et à quel point on a la chance d'avoir les dirigeants et les bénévoles qu'on a dans le rugby amateur.
À l'issue du référendum, Philippe, tu avais déclaré que c'était un doigt d'honneur au rugby français, que ça, voilà, et que ça faisait le comité directeur de la FFR en ne démissionnant pas. Donc, c'est fort quand même comme déclaration. Qu'est-ce que tu...
Non, mais je le regrette pas je le regrette pas pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve que on doit avoir un respect des institutions. Aujourd'hui, certainement que l'État n'a pas le droit de faire d'ingérence, mais on est quand même dans une période particulière dans laquelle on reçoit une Coupe du Monde, dans laquelle on est coactionnaire avec l'État et dans laquelle l'État est caution financière. Dans l'État, il n'y a pas de Coupe du Monde. Deuxièmement, on sort d'une période très difficile qui a été le Covid, où l'État a joué son rôle au mieux. Français, ça en est bien sorti de façon générale, en grande partie grâce au soutien de l'État. Donc je trouve problématique quelque part d'à la fois se servir de l'appareil politique besoin et quand ce qu'il a à dire ne nous plaît pas, de dire que ça ne nous intéresse pas. Ça me pose problème, mais ça c'est personnel. Et puis deuxièmement, la Ligue s'était aussi positionnée, même si la Ligue a pas le dessus sur la fédération, c'est même plutôt l'inverse d'un point de vue de l'organigramme. Mais tout le monde était plutôt d'accord pour dire qu'on attendait les résultats de ce référendum. Et encore une fois, la gouvernance elle-même avait joué sur cette communication-là pour mobiliser les clubs. Et donc, quand on dit au club, venez, on a besoin de votre avis, mais sachez qu'il sera pris en compte. Et que le lendemain, on dit, mais non, finalement, avec les statuts, on va prendre l'autre article qui nous arrange plus. Et puis, ce n'était pas vraiment un référendum, c'était une consultation, on n'était pas obligé de suivre votre avis. Je trouve que c'est violent.
Alors, justement, Philippe, les élus du comité directeur de la gouvernance actuelle n'ont pas démissionné. Au contraire, eux, les élus d'Oval Ensemble ont démissionné. Donc, les élus Oval Ensemble, hein, Florian Grill, je les cite en vrac, Florian Grill, Jean-Marc Lermay, Jean-Claude Crella et d'autres ont démissionné, se sont retirés de cette opposition, entre guillemets, qui était entre guillemets, leur rôle depuis leur dernière élection en 2020. Est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique, une erreur politique, Philippe, de finalement laisser le champ libre à une gouvernance aujourd'hui qui n'a plus aucune opposition en son sein?
Alors d'abord, il y a deux questions. Au
Oui, je
départ,
te
notre
confirme.
réflexion, ouais. Au départ, notre réflexion, elle n'a pas du tout été politique. Et moi, je vous le dis franchement, je suis très fier de la décision qui a été prise parce que j'ai trop vu ces dernières semaines de commentaires de gens disant que il y avait que de l'opportunisme chez nous et une volonté de venir souffler sur les braises. Et c'est pas vrai. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint Oval Ensemble. À titre personnel et comme beaucoup d'entre nous, j'ai plus à perdre qu'à gagner. Moi aujourd'hui, je travaille avec le rugby pro, ça se passe bien. J'ai rien de plus à gagner en m'engageant dans le combat d'Oval Ensemble. Et c'est le cas de Claude Elias, c'est le cas de Florian Grill, c'est le cas de Jean-Marc Lermay, de la plupart des gens qui sont avec nous. Et donc, d'abord, pardon, il n'y a pas eu de calcul politique. Il y a juste une volonté de dire à la ministre et de montrer à tout le monde que l'État demandait à ce qu'il y ait une démission collective du comité directeur et qu'il fallait qu'il y en ait qui montrent l'exemple et qui répondent à la demande de l'État. Ça a été le premier point. Et le deuxième point, ça a été de dire que de toute façon, on voulait être droit dans nos bottes par rapport à notre philosophie, parce qu'aujourd'hui, politiquement, il aurait pu se passer quoi? On avait de toute façon une minorité, on ne pouvait pas influer sur les décisions, le seul pouvoir qu'on avait, c'est d'être autour de la table et d'être au courant de ce qui se passait concrètement et éventuellement de pouvoir le dénoncer. Mais ça, en tant que président de Ligue, il y a deux membres du groupe Oval Ensemble qui sont Thierry Tonnelier et Florian Grill qui continuent à être invités au comité directeur. Donc la participation d'Oval Ensemble, elle se fera toujours par leur intermédiaire pour suivre concrètement l'avis de la fédération. Donc, quelque part, politiquement, on n'avait pas grand-chose à jouer à rester et on voulait marquer le coup en disant que d'abord, on respectait la préconisation de la ministre en espérant, peut-être naïvement, mais que les autres allaient nous emboîter le pas. Pour être dans une démarche responsable. Et deuxièmement, ça changeait pas grand-chose par rapport au pouvoir qu'on avait au comité directeur. Et encore une fois, moi, je suis assez fier parce que ça a montré à tout le monde que Florian Grill n'était pas là pour une place, puisqu'il se serait passé quoi? Certainement que Florian Grill aurait été en bonne position pour prendre la présidence en juin, seul, puisque on n'élira qu'un président au mois de juin. Et il se serait passé quoi? Florian Grill aurait été président, entouré de gens de l'opposition, et on aurait eu une situation de blocage qui aurait absolument pas servi les intérêts du rugby français. Et Florian Grill n'est pas intéressé par ça. Et moi, la démarche personnelle de Florian à ce moment-là, elle m'a rassuré dans le fait de me dire que j'étais du côté de gens qui avaient une vision collective de la chose. Voilà.
Dans votre combat, vous avez beaucoup insisté sur le fait que l'image de la France à l'international avait été abîmée. Est-ce que c'est vraiment le cas d'ailleurs? Est-ce que ce n'est pas l'image du 15 de France qui véhicule justement voilà, les valeurs de la France à l'international. Est-ce que tu penses que ces affaires ont...
Je crois que c'est un tout, et particulièrement en année de Coupe du Monde. Je crois qu'un événement comme une Coupe du Monde de rugby, c'est un événement géopolitique. Ce n'est pas qu'un événement sportif. Et il y a un vrai sujet qui existe chez les anglo-saxons, et notamment du côté de World Rugby, c'est le fait que la présomption d'innocence n'existe pas chez eux. Donc, en réalité, ce qui se passe ici, et encore une fois, je le répète, avec l'appel de Bernard Laporte, il est présumé innocent aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout perçu comme ça à l'international, du côté de World Rugby, et c'est d'ailleurs dans leur statut. C'est pour ça que Bernard a été obligé de démissionner de World Rugby dès le verdict. Cette notion de présomption d'innocence n'existe pas. Et quand j'ai regardé la presse, notamment britannique, dans les jours qui ont suivi le verdict du procès, elle était beaucoup, beaucoup plus à charge que la nôtre. Parce que pour eux, ce qui se passe ici est incompréhensible, d'un point de vue légal même. Donc, il y a une subtilité qui fait que dans le monde, à part chez nous, cette subtilité-là n'existe pas. Donc, Bernard Laporte a été condamné pour eux. Son comité directeur l'a suivi. Et donc, il aurait dû avoir de nouvelles élections pour redonner la parole au club pour savoir ce qu'il voulait faire et par qui il voulait être représenté.
Est-ce qu'aujourd'hui, Philippe, le groupe Oval Ensemble est résigné finalement à devoir attendre les prochaines élections qui seront probablement en 2024, enfin, sûr en 2024, peut-être en 2025, en fonction de ce qui sera décidé prochainement au niveau des ministères, puisqu'il y a une demande qui a été faite pour retarder les élections jusqu'au premier semestre suivant l'année des Jeux Olympiques. Mais est-ce que, du coup, vous êtes résigné à attendre ou est-ce que vous croyez encore éventuellement à un volte-face de l'actuelle gouvernance ?
Alors, on n'est pas du tout résigné parce que d'abord, moi, quand j'ai commencé à discuter avec Oval Ensemble des réflexions stratégiques sur le rapprochement rugby pro, rugby amateur, nous, on pensait aux élections prochaines. On n'était pas du tout en train d'attendre un scénario comme celui qu'on a vécu. Et donc, finalement, tout ça, ça a chamboulé toute notre façon de réfléchir, de travailler. L'équipe était... dans une vision de préparer au mieux des élections en 2024, en répondant au mieux aux attentes du rugby amateur, en étant sur le terrain beaucoup. Donc, on n'est pas du tout résigné. Je pense qu'on a joué notre rôle d'opposition pour quelque part mettre Bernard Laporte à ce moment-là face à ses responsabilités, puisqu'on a contribué à accentuer la pression, je pense. Et a montré qu'il y avait une question vraiment philosophique à laquelle il fallait qu'on réussisse à répondre au-delà des statuts. On croit encore à des changements parce que je vois depuis quelques jours toutes les sorties médiatiques d'Alexandre Martinez qui appellent à une ouverture, à travailler avec toutes les parties. Ben, par quoi ça va se matérialiser, on ne sait pas. Mais je trouve qu'il insiste quand même beaucoup sur cette notion d'ouverture et de volonté de travailler avec tout le monde. Et là, maintenant, surtout, on continue, nous, sur le terrain, à mener nos actions, à être auprès des clubs, mais on veut surtout être respectueux de l'équipe de France. Voilà, on a une chance exceptionnelle, et honnêtement, on est très loin de l'opportunisme primaire. On est les premiers malheureux du timing, mais ce n'est pas nous qui l'avons choisi, le timing judiciaire. Mais en tous les cas, ça a clairement perturbé la communication sportive. Et là, on est rentré dans le tournoi à destination. Et il faut qu'on parle de rugby, il faut qu'on parle de notre équipe de France. Voilà, on a la chance d'avoir une équipe qui fait rêver, d'avoir que des mecs qui composent cette équipe, qui, je pense, donnent envie aux gamins de rejoindre les écoles de rugby. D'un point de vue sportif, les planètes sont alignées. Et donc, il faut qu'on soit raisonnable. On n'est pas du tout résigné, mais on veut juste montrer notre respect aux sportifs et à l'importance de préserver le 15 de France.
Si nous, Florian Grill, justement, arrive aux commandes de la FFR, quel serait toi ton rôle? Tu t'investirais au quotidien à la, à la Fédé? Quel serait ton rôle, en tout cas? Est-ce que c'est un peu trop tôt pour en parler ou
En l'occurrence, l'avantage de Florian, c'est que il a fait de promesses de Gascon à personne. Moi, quand il m'a demandé de le rejoindre, il m'a rien proposé. Il m'a dit, voilà, tu as l'air de plutôt bien connaître le rugby pro. Il y a des enjeux très forts de rapprochement entre le rugby pro et le rugby amateur. Tu as aussi une vision de ce qu'on appelle la RSE et toute cette dimension d'impact social, sociétal autour du rugby. C'est des questions qui m'intéressent et j'aimerais que tu participes à un groupe de travail pour travailler là-dessus. Et moi, ça m'intéresse, encore une fois. Je considère qu'on a une responsabilité, parce que vous le disiez en préambule, moi, je sais la chance que j'ai d'appartenir à cette famille, parce que c'est une famille qui s'est vraiment construite, pour le coup, au sens propre, comme figuré autour des valeurs du rugby. Je considère en avoir une forme de responsabilité. Voilà, j'essaie d'y faire honneur. On a une très grande chance, c'est d'avoir construit des vies professionnelles qui dépendent en rien du rugby. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu mes oncles, mon père être sponsor des clubs, prendre des joueurs dans nos entreprises pour les faire travailler. Donc, en fait, je pense qu'on a donné au rugby plus qu'on a pris. Voilà, donc moi, je suis à l'aise avec ça. Et je me dis, le rugby a construit notre famille. Et je trouve que la vie, elle est agréable et elle fonctionne quand elle est équilibrée. Et quand on reçoit, il faut donner. Et voilà, donc il n'y a pas d'attente particulière de ma part. Mais je pense en effet que ce soit pour développer la pratique du rugby ou pour encore être plus performant avec le 15 de France, il faut à tout prix encore davantage rapprocher les points de vue entre la Ligue et la Fédération pour qu'on arrive à continuer à concurrencer ces fédérations comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Irlande en ce moment, qui émergent. Pourquoi? Parce que les joueurs sont au service de l'équipe nationale. Et donc, il faut à tout prix que les clubs aient envie de travailler pour l'équipe nationale. Et pour ça, il faut qu'il y ait des intérêts communs qui soient plus forts qu'aujourd'hui.
Philippe, une dernière réflexion par rapport à ce que tu dis. Quand tu dis les joueurs doivent être que les clubs comprennent que les joueurs sont au service de l'équipe nationale, c'était un peu le credo de la gouvernance de Bernard Laporte à ses débuts, parce qu'il avait engagé un vrai bras de fer là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que Florian Grill est davantage sur une ligne, pour le rugby amateur, notamment la perte des licenciés, les problèmes financiers pour les clubs amateurs qui sont en souffrance depuis la période de Covid, parce que ce qui a été vrai, ce que tu as souligné à juste titre, sur les clubs pro n'a pas forcément été le cas sur les clubs amateurs. C'est marrant de t'entendre parler finalement de rapprochement. Est-ce que c'est aussi parce que tu connais très bien le milieu du rugby pro et que Florian a besoin aussi de compétences dans ce milieu-là que tu tiens ce propos?
Je pense certainement, je pense que c'est en partie pour ça qu'il est venu me chercher, même si honnêtement Jean-Marc Lhermé et Sylvain Dereux ont une très bonne vision de ce qu'est le rugby pro et ce serait prétentieux de dire que j'ai une meilleure vision qu'eux, mais on se complète. Mais tu sais, pour revenir à Bernard Laporte et sa vision des choses quand il est arrivé, Bernard Laporte et son équipe, et on l'a toujours dit, mais c'était pas très audible dans le brouhaha ambiant ces dernières semaines, ont pris beaucoup de bonnes décisions. Aujourd'hui, quand tu regardes factuellement ce qui s'est passé avec l'opposition d'Oval Ensemble au comité directeur, plus de 80% des décisions qui ont été présentées par le comité directeur ont été approuvées par Oval Ensemble. Donc, on n'est pas du tout en train de dire que tout ce qui a été fait avant est à jeter. C'est pour ça qu'on revient encore à cette dimension éthique et philosophique, parce que là, on n'est pas dans le contenu même. Et donc, moi, je suis plutôt en ligne avec la vision qu'a eu Bernard en arrivant. Alors, il l'a fait à sa manière, avec Serge Simon qui peut aussi être clivant, et ils ont joué un bras de fer. Est-ce que c'était nécessaire à ce moment-là d'aller aussi loin? Je ne sais pas, je n'étais pas dedans. Mais en tous les cas, oui, je pense que le rugby pro et le rugby amateur doivent mieux travailler ensemble. De toute façon, tu sais, c'est une évidence. aujourd'hui, quand tu regardes, c'est très factuel, l'économie du rugby. La Fédé, c'est quasiment 300 000 licenciés, c'est l'équipe de France, mais bon, c'est à peu près 100 millions d'euros de budget. Et la Ligue nationale de rugby, avec 30 clubs pro, c'est aujourd'hui plus de 120, voire 130 millions d'euros de budget. Et si tu additionnes à ça toutes les économies cumulées des clubs, à coût de budget moyen à 15 ou 18 millions d'euros, si tu mets dans un pot commun la Pro D2 et le top 14, ben, force est de constater que la force de l'économie, elle est chez les pros. Et donc, comment aussi les pros servent le rugby amateur, parce que c'est leur vivier de demain, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu des gifs est devenu de plus en plus important. Donc, il faut bien réussir à récompenser ces petits clubs formateurs qui investissent pour former des futurs Antoine Dupont et Romain Ntamack. Donc, je n'ai rien inventé en disant que quand on fait ce constat-là, ben, on a besoin l'un de l'autre.
Eh ben, c'est un joli mot de la fin. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raph.
J'ai pris note. Non, moi, j'adore, mais j'ai pris note de qu'il avait juste cité des Toulousains, quoi. Tu vois, les Dupont et Ntamack, quoi. Il va pas chercher les Macalou ou autres. Tu vois, il reste
non,
chez lui.
Mais c'est vrai. Non, en plus, sans chauvinisme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, les têtes d'affiche qui font le plus rêver les gamins, c'est eux. Mais attends, il y a aussi Gaël Ficou. On peut en citer d'autres, mais c'est vrai
mais
qu'il y a beaucoup de cousins.
Alors je cherche. Sûr.
Mathieu Jalibert, voilà. Absolument. Non, j'ai pas de chauvinisme par rapport à ça parce que honnêtement, Toulouse pour moi c'est très particulier pour une raison simple, c'est que bon, d'abord il y a une histoire. Mon oncle Walter a été le seul de la famille à finir sa carrière là-bas. Il a été président des Amis du Stade, qui est l'association propriétaire du foncier du Stade toulousain. Et c'est lui qui était le maître d'œuvre des travaux du nouveau Ernest Vallon. Donc, moi, j'y ai joué 10 ans. J'y étais tout petit. Je suis parti, je suis revenu. J'ai rencontré là-bas tous mes amis les plus proches. Greg Lambollet, Vincent Clerc, Julien Reynaud, Marc Giraud, Julien Pâté, Virgile Lacombe. Voilà, ça c'est mes amis. J'ai vécu une année sportive exceptionnelle avec Didier Lacroix comme entraîneur et Emile Ntamack en espoir, avec Johan Huger, avec Max Médard, avec Max Mermoz. Donc, sportivement, d'abord, c'est pour mon petit niveau, ça a été mon Graal. Et puis aujourd'hui, j'essaie d'accompagner au mieux les intérêts du club en lien avec Fiducial. Donc, forcément, il y a une relation particulière à Toulouse. Mais par contre, j'essaie de ne pas avoir de chauvinisme et de manque d'objectivité trop important quand il s'agit des joueurs.
Non, mais je te rassure, Philippe, c'était juste la réflexion d'un pauvre garçon qui a joué longtemps en rose. Voilà, et c'était pas dans la ville, c'était le Stade Français, évidemment. Messieurs, un grand, grand merci pour vos échanges. On va en rester là pour aujourd'hui. On a déjà été très long, Philippe. J'espère qu'on t'a pas trop accaparé. Merci, un grand merci encore de nous avoir accordé cet éclairage autour. Des affaires autour de la Fédération française de rugby. Et comme de tradition dans cette émission, Philippe, le mot de la fin, il n'est pas pour l'invité, il est pour la star de l'émission, c'est Raph. À toi, Raph.
Non, moi, je suis ravi d'avoir pu. Voilà, je trouve que c'est un point de vue singulier, particulier, une forme de. Et ce n'est pas du tout péjoratif, sortant de ma bouche, de vulgarisation un petit peu de ce qui s'est passé. D'avoir un point de vue, une prise de hauteur sur tout ce qu'on a entendu ces dernières semaines, ces derniers mois. Moi, je suis complètement apolitique, mais ma volonté, c'était de donner la parole justement à un mec de ma génération qui a envie justement que ces grandes valeurs marketées dans les grands moments sportifs soient incarnées. Et c'était important pour moi de te recevoir, Philippe, parce que voilà, c'est bien d'avoir aussi l'autre point de vue, de savoir ce qui se passe en face avec un peu de sagesse, un peu de recul et un peu de hauteur. Donc, c'était important de t'avoir aujourd'hui en espérant que l'opposition puisse aller la chercher et puis qu'un de ces jours… on puisse avoir Bisson ou un autre venir nous parler un petit peu de ce qu'il vit aussi au sein de la Fédération française de rugby. En tout cas, j'étais ravi de te recevoir et c'était clair et limpide. Voilà.
Et merci à vous de votre invitation. C'était un très bon moment. Et puis, je trouve que vous avez un espace d'expression qui est important parce que c'est plein de bienveillance et de volonté justement d'accompagner ces fameuses valeurs dont on vient de parler et dont on a besoin. Donc, merci à vous.
Eh bien, nous, on va continuer, évidemment, avec la troisième partie de Poulain Raffute. Allez, troisième partie aujourd'hui dans Poulain Rafut, les coups de cœur, les coups de gueule, les coups de griffe, les coups de patte. La patte de Poulain Rafut, de Raphaël Poulain, c'est maintenant. Le coup de cœur, il est pour l'équipe de France, Raph, si j'ai bien compris. Tu étais à Dublin ce week-end, tu as vécu un week-end de dingue. J'imagine que tu as bu quelques pintes de Guinness et que tu as vu un match splendide. Raconte-nous un peu comment tu as vécu ce week-end dublinois, marqué notamment par cette défaite. Hein, on l'a évoqué déjà dans la première partie, cette défaite de l'équipe de France. La première après 14 succès consécutifs. Je crois que tu as constaté, comme tout le monde, que l'Irlande était quand même plus forte ce week-end.
Oui, déjà, c'est des week-ends bien particuliers. On est sacrément privilégié quand on peut prendre l'avion, qu'on peut retrouver les Irlandais, qu'on peut retrouver cette ferveur. Et puis, le respect aussi irlandais. Donc, moi, je me suis régalé. J'ai passé 48 heures, j'étais avec le groupe Couleur. Et j'ai passé 48 heures avec des supporters qui étaient, ravis du match qu'ils ont vu aussi. Là, on parlait de haute. Là, c'était très, très haute intensité. On est à plus de 40 minutes de jeu. Voilà, on ne va pas revenir sur le match. Je pense qu'on est à 5 jours du match. On va plus se projeter sur le match de la semaine prochaine. Mais voilà, on a vu une équipe qui était plus forte. On le sait, je citais le Leinster dans mon papier juste avant, dans ma ruade. Mais si je cite le Leinster, c'est qu'aujourd'hui, en Coupe d'Europe, le Leinster est en train de rouler sur cette Coupe d'Europe. Donc voilà, on est tombé contre les numéros 1 mondiaux. On s'est peut-être vu plus beau que prévu. Bon, en attendant, sur le terrain, on se l'était dit avec la Roum, hein, avec Olivier Roumat, dès qu'il franchissait nos 40 mètres, ça allait à dame soit par une pénalité, soit par un essai. On a vu quelques fulgurances, mais force est de constater qu'on a encore du boulot et puis que c'est dans l'échec. Qu'on peut se renouveler, qu'on peut se poser les bonnes questions, en espérant que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt d'une crise naissante, mais je ne pense pas. En attendant, ces moments, ils sont toujours particuliers. On aura la chance de recevoir l'Écosse aussi, qui a battu les deux grandes nations, qui sont le Pays de Galles et l'Angleterre, chez elle. Donc, il va falloir se méfier de ces Écossais, mais je serai toujours ravi, en tant que supporter, de mettre, tu vois, le truc bleu-blanc-rouge sur la joue, là, et puis d'aller gueuler dans les travées du stade. Et ouais, j'avais un supporter à côté de moi qui était sacré. Chaque action, il disait quelque chose. Allez les Écossais, allez les Français. Moi, j'adore ces moments-là. Donc voilà, je suis un peu comme un gosse. Parce que quand tu as une carrière qui s'arrête, bah, tu es content de passer de l'autre côté et puis d'aller supporter ceux qui te font rêver tous les week-ends. J'ai passé un super moment. Et puis voilà, l'Irlandais est au-dessus. On verra pour la Coupe du Monde. En attendant, match contre l'Écosse, hyper important. Voilà, Arnaud.
Alors, super week-end, on l'a bien compris. Donc, c'était ton coup de cœur pour cette troisième partie. Mais il y a un petit coup de gueule quand même durant ce week-end. Il n'est pas contre Wayne Barnes, l'arbitre anglais de cette rencontre entre l'Irlande et la France, mais contre la télévision irlandaise. Petit rappel des faits, essai de l'ailier irlandais Lowe avec des angles de vue fournis par la télévision irlandaise sur l'arbitrage vidéo demandé par Wayne Barnes qui n'ont pas pu lui permettre de juger que le joueur était passé en touche. Or, les images ont été diffusées a posteriori. On a bien vu que Lowe était passé en touche. Pour toi, c'est pas très rugby, comme on dit, si j'ai bien compris, Raph.
Ah bah ça n'est pas, et pour moi, c'est une faute professionnelle à partir du moment où le diffuseur se met en relation avec le corps arbitral pour pouvoir diffuser les images, tu montes toutes les images. Surtout que, et même une image que moi j'ai vue dans le stade, en fait, où on voit le pied frôler en fait, l'herbe. Il y a un angle en fait, où on le voit très bien. Moi, je trouve ça un petit peu dégueulasse, parce que si tu fais ça en France, tu prends tous les pays anglo-saxons sur la gueule. Or là, je trouve qu'on n'a pas fait énorme polémique autour de ça. On rend hommage aux vainqueurs, on ne va pas passer pour des rancuniers. Mais force est de constater que s'il y a pied en touche, il n'y a pas essai, il n'y a pas le même. C'est pas du tout la même physionomie du match parce qu'on prend des essais aussi en contre, sur peut-être une passe de trop à chaque fois. Mais cet essai-là, je veux dire, si tu ne le prends pas, le match a une toute autre gueule. Donc,
mais en tout cas, si tu dédouanes l'arbitre anglais Wayne Barnes.
Il n'a pas accès à toutes les images. Donc s'il y a pas, moi, l'arbitre, il n'y a rien à dire. Alors oui, c'est sûr que si on se dit que l'arbitre a vu cette image-là et qu'il décide qu'il y ait essai, là oui, c'est dégueulasse. Or, il ne l'a pas vu. Donc ce sont les médias, le média irlandais qui donnait les images, qui n'a pas été honnête. Donc c'est un manque d'honnêteté de la part de l'Irlande, au-delà de l'équipe d'Irlande qui a fait une énorme partie. Ça n'enlève en rien justement le succès de l'Irlande, mais ça change la donne du match. On peut pas négliger ce fait de jeu.
Voilà, c'était le coup de gueule de Raph Poulain. Il n'était pas très virulent, mais en tout cas, si la télé irlandaise nous entend, tu n'auras pas de chronique évidemment la télé irlandaise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Poulain Rafut, c'est terminé. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, toujours avec le sourire. Salut messieurs.
Merci Arnaud, merci Adrien qui était à la réalisation de cette émission et à la semaine prochaine. Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.